On va pouvoir ouvrir la parole de Dieu dans le premier épître de Jean. Premier épître de Jean, c'est un peu avant l'Apocalypse. Chapitre 4, verset 18. Il s'agit d'un verset d'introduction qui finalement ne sera pas le thème du message, mais qui est une bonne introduction. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Parce que le problème en français, c'est qu'on a des mots qui veulent dire plusieurs choses, et du coup, quand on lit la Bible, on a du mal à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et là, en l'occurrence, il est question de la crainte. 1 Jean 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » La crainte... L'amour parfait plutôt bannit la crainte. On se rend bien compte dans ce passage que la crainte dont il est question, c'est quelque chose qu'il ne faut pas garder. Or, la Bible nous parle à plusieurs reprises différentes et nous parle d'une crainte que par contre il faut cultiver, dans laquelle il faut progresser. Et l'amour parfait bannit la crainte, c'est simplement que cette crainte-là dont il est question, c'est la peur. Véritablement, la crainte du jugement, la crainte du châtiment, véritablement, le mot qui est donné juste avant, c'est le mot du jugement, châtiment, qui est rappelé dans Matthieu chapitre 25. Vous savez qu'au moment où ce que vous aurez fait pour le Seigneur, ben le Seigneur mettra à droite ceux qui auront fait du bien et à gauche ceux qui n'auront pas fait de bien. Et à la fin, il dit « Cela ». Ceux qui n'auront pas fait du bien au Seigneur, ceux qui n'auront pas donné un verre d'eau, ceux qui n'auront pas nourri, ceux qui n'auront pas vêtu le Seigneur, ils seront mis à gauche. Et les autres qui auront fait ces choses, ils seront mis à droite, mais ils l'auront fait. À qui, Seigneur, à qui? Quand c'est qu'on a fait ces choses-là? Mais c'est quand vous les avez fait aux plus petits. Et ceux qui iront à gauche, il est dit qu'ils iront au châtiment éternel. Et c'est la crainte de cette chose-là qu'il faut avoir. On est d'accord. Et j'espère que cet après-midi, vous n'allez pas rester dans la crainte. Ce verset nous encourage en tout cas à passer de la crainte à l'amour. Et l'amour reçu de Dieu dans notre cœur nous permet de sortir de cet état de peur, de crainte, quand nous réalisons que l'amour de Dieu s'est révélé à la croix, quand nous acceptons ce message, nous passons de la crainte du châtiment, la crainte de l'enfer, la crainte de tout cela qui est naturel à l'homme, tous les hommes connaissent ceci, nous passons à l'amour et la plénitude de la présence du Saint-Esprit. Mais cet après-midi, je voudrais justement qu'on aille dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire passer de l'amour à la crainte véritable, à ce respect profond pour Dieu. Parce que malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent à aimer Dieu. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent dans leur vie chrétienne au moment où ils ont aimé Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé à un moment donné d'aimer Dieu? Normalement, ça devrait continuer, hein, on est d'accord. Mais à un moment donné, en tout cas, il y a un jour en particulier où vous avez aimé Dieu. Si on lit tout le contexte de 1 Jean chapitre 4, on se rend compte que nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier. C'est ce qu'il dit juste après. La raison qui fait qu'on peut aimer Dieu, c'est parce qu'on a goûté à son amour. On a vu que quand Dieu aime les êtres humains, il ne fait pas semblant. Il a donné son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et cet amour qui est tellement parfait vient jusqu'à nous, nous sort de notre crainte, nous sort de notre peur de l'enfer et nous amène dans le ciel. Mais nous voulons progresser dans l'amour de Dieu. Et nous ne voulons pas rester dans un amour sentimental. Nous ne voulons pas rester dans un amour qui dépend de ce que nous pouvons avoir comme émotion dans notre cœur. Mais nous voulons avoir cet amour qui va progresser, grandir et aller jusqu'à la crainte de l'Éternel. Nous voyons tellement de fois dans la parole des hommes qui ont aimé le Seigneur, mais qui ne sont pas allés forcément plus loin. Et quand nous lisons dans l'Ancien Testament, on va lire deux phrases, deux versets d'hommes de Dieu, la première de Moïse, qui se trouve dans Deutéronome chapitre 10. Et Moïse est en train de dire à ce peuple qui est sur le point d'entrer dans le pays de la promesse, il leur donne des conseils afin qu'ils puissent véritablement faire la volonté de Dieu dans ce pays. Deutéronome chapitre 10, verset 11, il est dit... Donc c'est l'Éternel qui parle à Moïse, « Lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Deutéronome 10, verset 12 maintenant. « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu, et de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Que demande de toi l'Éternel ? J'aime bien la formulation de ce verset qui nous dit que finalement, il n'y a qu'une chose que Dieu demande à ses enfants, il n'y a qu'une seule chose que le Seigneur demande, alors c'est résumé sous plusieurs verbes différents, mais en tout cas, c'est cet élan-là. Que demande de toi l'Éternel si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu ? Et comment ça se passe cette crainte ? Comment je passe de l'amour de Dieu, de l'amour sentimental de Dieu, jusqu'à la crainte de Dieu ? Eh bien, on peut le lire maintenant dans Josué. Il reprend à peu près les mêmes paroles que Moïse. Josué chapitre 22 et le verset 5. Alors on peut lire, oui, même au verset 4. Vous savez, c'est à ce moment où... Avant, c'était Moïse qui avait la promesse pour le pays, pour les tribus qui n'étaient pas encore accomplies, cette promesse. Mais là, c'est le moment où tout le monde a conquis, ça ira mieux, a conquis le pays. Toutes les tribus ont eu leur portion d'héritage. Tout le monde a réussi à acquérir la promesse que Dieu leur avait donnée. Maintenant, ils sont tous en train de rentrer chez eux pour retourner dans leur maison, dans leur famille. Ils ont fait la guerre, ils ont réussi à remporter des victoires par la grâce de Dieu. Maintenant, ils méritent le repos, on pourrait dire. Le repos du guerrier, dont on parle souvent. Et c'est à ce moment-là que Josué leur dit ceci. Alors Josué, donc chapitre 22, le verset 5, verset 4 donc. « Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez. » Et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de Dieu, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Josué les bénit et les renvoya vers leur tente, vers leur maison, etc. Et en particulier, il s'adresse aux tribus de Ruben, de Gad et de Manassé. C'était des tribus qui avaient un héritage de l'autre côté du Jourdain. Et ils avaient réussi à remporter des victoires, mais ils avaient eu le commandement de la part de Josué, de Moïse, de continuer à aller remporter la victoire, même si eux, ils avaient déjà acquis leur héritage. Et ce qui fait qu'ils ont aidé leurs frères, aidé ces personnes à acquérir leur pays, leur portion. Mais maintenant, il fallait qu'ils rentrent chez eux. Et on a l'impression, quand on lit ce passage, que finalement, le plus gros du combat, il se trouve derrière. On a l'impression, quand on est dans le pays de la promesse, et que toutes les promesses sont accomplies, que le plus gros du combat se trouve derrière. Et je ne suis pas sûr qu'il en soit ainsi. Ça nous donne cette image à nous, qu'on a l'impression qu'une fois qu'on est rentré dans ce royaume du Fils de l'amour de Dieu, quand on a découvert l'amour de Dieu, on a l'impression qu'on a fait le plus gros. Et je me souviens quand moi je me suis fait baptiser, j'ai cru que le baptême, c'est bon, c'était la part la plus importante de la vie chrétienne. Et que maintenant j'attendais plus que la couronne de justice qui m'était réservée. J'avais oublié quelques étapes au milieu. Et je pense que ces personnes étaient un peu dans cet aspect-là. Ah, on va pouvoir rentrer chez nous, on va pouvoir se reposer, déposer l'épée, déposer le bouclier, et être avec notre famille, profiter de notre famille. Mais voilà que Josué leur donne ce commandement. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on commence par aimer l'Éternel, notre Dieu. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme ça qu'on rentre dans le royaume. On reçoit l'amour de Dieu. Mais il faut aller plus loin, il faut passer de l'amour à la crainte de Dieu. Pour passer de l'amour à la crainte de Dieu, je crois que Josué nous a donné un processus, plusieurs verbes différents qui, si on les regarde rapidement, parlent tous de la même chose. Il faut en gros obéir à la loi de Dieu. Bon, ça, tout le monde est d'accord. Mais je crois que derrière chacun de ces mots, derrière chacune de ces expressions, il y a une réalité spirituelle qui nous permet d'aller de progrès en progrès, qui nous permet d'avancer dans le royaume de Dieu, qui nous permet de passer d'un amour sentimental à un amour profond, enraciné, établi dans la présence de Dieu, un amour qui s'appuie sur une foi forte et pas avoir une vie chrétienne fragile. Parce que, est-ce que les émotions, c'est pas fragile ? Il y a des jours, tout va bien, le soleil, là, ça brille, ah, c'est merveilleux, puis le lendemain, il pleut, et, ah, c'est la dépression totale, alors qu'il ne s'est rien passé de spécial à part le temps qui a changé. Mais notre corps, notre caractère est chamboulé par ces changements de temps. Et combien ça peut être dangereux que notre foi dépende de nos sentiments, notre amour pour Dieu dépend de nos sentiments. Aimer Dieu. Je pensais à Judas. Est-ce que Judas n'a pas aimé Jésus à un moment donné ? Il était son disciple, il était un des 12, il était un de ceux qui avaient été envoyés même devant le Seigneur dans les villages pour annoncer la parole, il a même chassé des démons, toutes sortes de choses. Je pense qu'il avait vécu véritablement quelque chose avec Dieu, avec Jésus en particulier. Il a aimé Jésus, mais il n'a pas persisté dans cet amour. Je crois que Pierre aussi a aimé Jésus. Et même Jésus, à un moment donné, lui pose la question, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Mais son amour pour le Seigneur Jésus n'a pas suffi à l'empêcher de le renier. Je crois que même quand il a renié, il aimait toujours, mais c'est par rapport à la peur qu'il avait des gens. Son amour a baissé par rapport à la peur qu'il avait des personnes autour de lui. Mais il a continué de l'aimer malgré tout, faiblement. Et par sa grâce infinie, Dieu est venu le bénir par l'intermédiaire de Jésus. Quand il lui a posé ces trois questions, « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? » Et Pierre qui était là, le cœur brisé, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il a compris ce jour-là, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que l'amour humain ne suffit pas pour le Seigneur. Dieu demande la crainte. Dieu demande d'avoir cet amour. Je crois que l'amour, la crainte de Dieu, la crainte véritable de Dieu, pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, ce respect profond pour Dieu, c'est une, comment dire, c'est l'amour, le top de l'amour, si vous voulez le dire de manière simple. C'est l'amour poussé à l'extrême, vraiment. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et je voudrais qu'on, rapidement, très rapidement, nous puissions aller dans ces différentes expressions qui nous sont données. Aimer l'Éternel, c'est la base, on est d'accord. Tout le monde commence par là. Un psaume nous dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et j'aime ce psaume, il est simple, mais ça veut tout dire. Il ne suffit pas de dire, j'aime Dieu. C'est vrai, pour avoir la foi, il faut commencer par croire que Dieu existe. Pour être chrétien, il faut commencer par accueillir l'amour de Dieu en nous. Mais cet amour doit nous conduire à haïr le mal. Deuxième expression, il est dit, marcher dans ses voies. Littéralement, ça veut dire aller dans les chemins, dans les voies de Dieu. Ça veut dire faites ce que Dieu vous demande, finalement. Ça nous parle d'une avancée, d'une progression, d'une direction qui est donnée. Je pense à l'apôtre Paul qui a comparé la vie chrétienne à la vie d'un athlète qui est en train de faire une course. Mais on est d'accord pour dire que l'athlète, s'il se trompe de course, s'il se trompe de route, il ne va pas gagner la course. Et est-ce que nous sommes sur le bon chemin ? Est-ce que nous sommes dans les bonnes voies ? Parce que ce monde est rempli de chemins. Toutes sortes de chemins différents qui vont à toutes sortes d'endroits différents. Mais par contre, il y a la voie de le chemin de la vie. Marcher dans les voies de Dieu, c'est être conforme à sa parole. Matthieu chapitre 7, verset 13, je le lis pour vous. C'est cette parole de Jésus qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il y a beaucoup de chemins, mais il y a un seul chemin qui mène à la vie, c'est celui qui passe par le fait de marcher dans les voies du Seigneur. Et si nous aimons le Seigneur, si nous avons véritablement cet attachement au Seigneur, nous voulons emprunter le chemin qui va nous amener dans sa présence. Un jour, être dans la gloire avec le Seigneur, dans la communion parfaite, mais est-ce que nous y sommes sur ce chemin déjà ? Je pense aux disciples d'Emmaüs, souvent on prend leur exemple, mais est-ce qu'ils étaient sur le bon chemin, les disciples d'Emmaüs, quand ils allaient de Jérusalem à Emmaüs ? Est-ce qu'ils étaient sur le bon chemin ? Ils étaient dans un chemin, spirituellement parlant, ils étaient dans un chemin de doute, de découragement, de tristesse, d'accablement, tout ce que vous voulez. Mais par la grâce de Dieu, Jésus en personne a été dépêché vers eux pour qu'ils changent de chemin. Et vous savez, dès l'instant où ils ont reconnu le Seigneur, ils n'ont pas dit « Ah, mais il est déjà tard. On va faire une bonne nuit de repos et puis on partira demain à Jérusalem. » Il est dit que dès l'instant où le Seigneur les a quittés, ils ont repris leurs affaires, ils sont remis en marche. Ça veut dire qu'il était pendant la nuit et ils sont allés à Jérusalem raconter comment le Seigneur les a bénis. Pourquoi ? Parce que même quand on se trompe de chemin, le Seigneur est tellement bon envers nous qu'il nous donne une parole pour nous recadrer. C'est comme un panneau indicateur qui nous dit « Voilà, c'est par là qu'il faut revenir. » Mais ils étaient sur un mauvais chemin. Et ils ont accepté que le travail de Dieu se fasse dans leur vie pour être recadrés. Et je pensais justement que des fois, on peut se faire piéger par les panneaux indicateurs. Pourtant, c'est dans la vie de tous les jours, ça nous paraît tellement évident. Imaginez que vous allez à Paris, donc vous cherchez sur la route les panneaux qui vous indiquent Paris. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il ne suffit pas de trouver un seul panneau pour aller à Paris. Parce que sinon, à un moment donné, vous allez avoir un problème. Parce que peut-être qu'un panneau vous dit comme ça, Paris c'est, alors je ne sais pas, ça doit être par là. Le nord, je crois que c'est par là. Paris c'est par là. Sauf qu'à un moment donné, devant vous va se dresser une montagne. Un autre panneau devrait vous dire Paris c'est par là, pour vous faire contourner la montagne, vous comprenez? Si vous vous fiez qu'à un seul panneau, vous allez au travers de grandes embûches. Et vous n'allez pas forcément tomber sur la bonne direction, parce que les panneaux indiquent le sens des routes. Ils n'indiquent pas forcément la destination finale. Vous comprenez? Et des fois, dans notre vie chrétienne, on marche, mais on marche avec une seule indication, comme s'il y avait un seul panneau. On marche, par exemple, j'ai pris un exemple bien pratique, mais quelqu'un qui est chrétien et qui se convertit à l'évangile, mais qui est vraiment recentré sur lui-même, qui est profondément égoïste, insensible aux autres, que le Seigneur est en train de changer, puis il commence à s'ouvrir, il commence à découvrir la communion fraternelle, commence à découvrir l'amour de Dieu, commence à lire toutes sortes de paraboles du Seigneur qui l'invite à s'ouvrir aux autres. Et puis cette personne, elle commence à faire des visites, commence à appeler, commence à envoyer des textos, elle commence à inviter les gens à la maison, et elle commence à faire toutes sortes d'activités pour s'ouvrir aux autres. Est-ce que c'est bien? Et puis cette personne continue, comme s'il n'y avait que ce panneau-là dans sa vie, cette direction, elle continue, elle fait que ça, elle passe son temps jusqu'au moment où elle est totalement épuisée, totalement fatiguée, parce qu'elle a dépensé tout son temps, toute son énergie à aller voir les autres. Elle est passée de l'extrême d'être repliée sur soi à l'extrême d'être totalement accaparée par les gens qui l'appellent à droite, à gauche, « Fais-moi ceci, fais-moi cela. » Est-ce que c'est bien maintenant? Vous comprenez que s'il nous faut marcher dans les voies du Seigneur, il nous faut être attentif à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. On ne peut pas marcher dans les voies du Seigneur en se fiant qu'à un seul commandement, par exemple. Parce que, je viens de le montrer, ça peut être quelque chose qui peut devenir un piège. Le choix cet après-midi nous est donné par rapport à ce commandement-là. Est-ce que nous allons tourner le dos simplement au Seigneur, c'est-à-dire en prendre un autre chemin, ou est-ce que nous allons marcher dans ses voies? Dire, Seigneur, je veux marcher dans tes voies, mais je ne veux pas seulement marcher dans une voie comme ça, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu sois avec moi. Je veux marcher de progrès en progrès. J'aime cette expression de la Bible qui nous dit de marcher de progrès en progrès et qui nous appelle tout de suite au deuxième commandement qui est dit, marcher. Alors, c'est où? Aimer l'Éternel, marcher dans toutes ses voies, verset 5, hein, et garder ses commandements. Le mot garder, c'est littéralement monter la garde, veiller. Ça nous parle du veilleur de nuit qui doit garder un bâtiment, ça nous parle du soldat qui doit faire sa ronde dans le camp pour pas que l'ennemi vienne surprendre. Et je pensais à cette réalité que des fois, le progrès d'aujourd'hui, il se fait au prix du progrès d'hier. Comprenez? Peut-être vous ne le comprenez pas, mais je pensais à l'athlète encore une fois. L'athlète, il a remporté une course, il a eu une médaille d'or, c'est merveilleux. Et puis, malheureusement, entre-temps, il y a quelqu'un qui a vu que c'était de l'or, la médaille, et qui l'a pris dans sa poche et qui est parti avec. Et l'athlète se retrouve là, c'est vrai, tout le monde a reconnu qu'il a gagné une médaille, mais il n'a pas la preuve dans ses mains. Et il est obligé de recourir la même course pour obtenir la même médaille, ou une autre course pour obtenir une autre médaille. Et imaginez les personnes qui passent leur temps à faire cela. Pour le prendre encore de manière plus simple, imaginez un enfant qui apprend à marcher, et puis le moment où il a parfaitement appris à marcher, il se met à apprendre à parler, mais il oublie d'apprendre à marcher. Et comment il a appris à marcher? Ça poserait des problèmes, hein, certains. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça dans le royaume physique. Mais est-ce que ça ne se passe pas comme ça dans le royaume de Dieu? Est-ce que ça ne se passe pas comme ça? Je pense à ces moments où j'apprends à avoir une vie de prière, j'apprends à passer un temps de communion avec le Seigneur, c'est merveilleux, je fais des progrès dans cela, et puis je me rends compte, en lisant la Bible, je me rends compte en entendant une prédication qu'il faut que je lise la Bible tous les jours. Ah, je n'ai pas le temps de lire la Bible tous les jours. Et puis je me dis, bon, finalement, je vais le faire. Et au lieu de continuer à prier le Seigneur, je remplace mon temps de prière par le temps de lecture de la parole. Alors, je prends des exemples bien précis, mais chacun pourrait y mettre son exemple à lui et expliquer que, oui, à un moment donné, j'ai fait un progrès dans le royaume de Dieu, mais je suis revenu en arrière d'un autre côté. Est-ce que c'est ça, marcher dans les voies du Seigneur et garder ses commandements? Nous sommes appelés à garder notre cœur plus que toute autre chose. Paul a dit à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Oui, nous devons avancer, nous devons faire des progrès avec le Seigneur, remporter des victoires, mais nous devons aussi garder ce que nous avons remporté par la grâce de Dieu. Nous devons avoir cet état de cœur qui fait qu'on ne va pas laisser l'ennemi nous dépouiller de nos victoires. On va simplement veiller par la grâce de Dieu, pas par notre propre force, mais par la force toute puissante du Seigneur. Nous allons pouvoir garder ce qu'il nous a donné et nous allons pouvoir encore aller plus loin parce qu'il y a encore une étape. Attachez-vous à Dieu. C'est bien de progresser. C'est bien de garder ce qu'on a reçu. Mais c'est comme si on aimait Dieu de loin. C'est pour ça qu'il est donné ce conseil. Vous l'avez lu avec moi. Attachez-vous à Dieu. Littéralement, ça veut dire accrochez-vous. Ça veut dire se coller. Ça veut dire suivre étroitement. Dieu ne veut pas seulement nous donner des conseils de temps en temps, comme un panneau indicateur qui nous dit ce qu'il faut faire. Dieu, il veut que nous soyons en communion avec lui. Dieu, il veut que nous soyons juste derrière lui en train de le suivre. C'est ça que le Seigneur Jésus a demandé. Si quelqu'un veut me suivre, est-ce que nous suivons le Seigneur ou est-ce que nous nous contentons de quelques prédications de temps en temps, de quelques discussions avec les frères et sœurs qui nous aiguillent un petit peu? Et c'est bien, le Seigneur parle de cette manière. Mais combien le Seigneur nous appelle à aller encore plus loin? Si notre amour doit progresser, ça passe par cette communion constante, cette communion avec lui, où nous sommes à l'écoute de sa voix. Je pensais à cette image encore, pour reprendre l'histoire des panneaux. C'est bien d'avoir des panneaux de direction, mais c'est encore mieux quand on a le GPS qui fonctionne, alors on est d'accord, et qui capte. C'est bien d'avoir le GPS dans la voiture. Parce que là, quel que soit l'endroit où on se trouve, s'il y a des panneaux ou pas de panneaux, on sait où on est. La carte, elle est là dans notre voiture. Vous comprenez? Et vous savez que nous avons un GPS tellement performant. Le grand et puissant Seigneur, c'est notre GPS à nous. Celui qui veut nous conduire, celui qui veut être là à chaque instant de notre vie, celui qui désire, qui se fait appeler le bon berger. Mais le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui conduit le troupeau. C'est celui qui prend soin de chaque brebis. Est-ce que Jésus est notre bon berger? On peut lire dans Ruth, gardez toujours Josué chapitre 22, mais regardez dans Ruth, un petit peu après, il y a un exemple biblique. Là, je vous ai donné un exemple un peu contemporain avec le GPS, mais regardez l'exemple biblique du fait de s'attacher. C'est exactement ce qu'a fait Ruth. Josué juge Ruth. Ruth chapitre 1, verset 14. C'est le moment où c'est Ruth et sa belle-sœur ont perdu leur mari. Naomi est en train de leur dire, mais retournez chez vous dans le pays d'Israël. Restez ici dans le pays de Moab. Moi, je vais retourner chez moi. Et au verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa, donc c'est une des belles filles, elle embrassa sa belle-mère. Mais Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'attacha à elle. Et on va voir ce que ça veut dire, s'attacher. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Regardez ce que ça veut dire s'attacher. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Est-ce que vous comprenez, bibliquement parlant, ce que ça veut dire de s'attacher à Dieu? C'est cet exemple-là qui nous est donné. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Mais Dieu, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons avoir cet état de cœur qui dit, Seigneur, oui, quel que soit l'endroit où tu vas me demander d'aller, je veux y aller, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux avoir ce cœur véritable qui est passionné par être près de toi continuellement, qu'il n'y ait rien qui puisse me séparer de toi. Regardez l'autre exemple, c'est dans Genèse chapitre 2, je vous le cite, à la limite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quelle image il nous est donnée ? Là, c'est l'image de l'homme et de la femme qui s'unissent dans le cadre du mariage. Mais c'est l'image spirituelle d'une âme qui s'unit à son Sauveur et à son Seigneur pour marcher dans la vie de tous les jours, qui s'attache à son Seigneur et qui devient un avec son Seigneur, au point qu'à un moment donné, dans notre vie, dans notre être, c'est Christ qui transparaît. C'est ça qui commence à se passer. Et nous passons de cet amour sentimental au fait de refléter la présence de Dieu, de refléter le caractère de Dieu dans notre vie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? Est-ce que ce n'est pas merveilleux de connaître cette progression. Et je finis avec ce simple commandement. Après avoir marché, après avoir gardé les commandements du Seigneur, après s'attacher à Dieu lui-même, avoir cette communion véritable avec lui, il nous est demandé de le servir. Servir. Littéralement, ça veut dire travailler, ça veut dire aussi cultiver, ça veut dire être assujetti, ça veut dire toutes sortes de choses. C'est l'image justement de la personne qui travaille dur pour quelque chose ou pour quelqu'un d'autre. C'est bien de marcher, c'est bien de garder ce qu'on a reçu, c'est bien de suivre le Seigneur étroitement, mais il y a un moment donné où il faut que ça ne soit pas que de la théorie. Il faut que ça soit bien pratique. Il faut que ce que nous partageons cet après-midi, ce que nous avons entendu même ce matin, nous puissions le mettre en pratique. Et ça va se passer dès l'instant où on va franchir la porte. Ça va se passer demain matin, alors qu'il va falloir se lever pour aller au travail. Alors, ça va se passer pendant qu'on sera avec les collègues qui sont en train de dire toutes sortes de choses. Ça va se passer alors que peut-être notre patron va commencer à nous mener la vie dure. Ça va se passer parce qu'il va y avoir toutes sortes de problèmes dans notre vie, dans notre couple, etc. Toutes sortes d'épreuves qui vont avoir lieu. Est-ce que je vais avoir ce cœur qui dit « Oui Seigneur, je veux te servir. » Tout ce que j'ai pu progresser jusqu'à maintenant, je veux le mettre à contribution pour que ça m'amène à te servir. Paul, il dit justement, il prend l'image du laboureur, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Il faut qu'il y ait du travail. Le fruit, il ne va pas tomber du ciel. Le fruit de l'esprit, il ne va pas tomber du ciel non plus. Frères et sœurs, Si le Seigneur a permis que le Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit soient comparés à l'image d'un fruit, nous comprenons bien que ce n'est pas quelque chose qui va se faire par magie. C'est un travail qui prend du temps. Imaginez le laboureur qui doit semer. Est-ce qu'il attend il attend midi pour qu'il y ait beaucoup de soleil pour se mettre à semer? Ou est-ce qu'il ne doit pas se lever le matin avant que tout le monde soit réveillé, qu'il est le premier à se lever, il est le premier à affronter le froid, la nuit, tout ce que vous voulez? Il n'attend pas forcément qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau. Il y va parce qu'il faut qu'il sème. Des fois, on est là, on attend que toutes les occasions soient hyper favorables pour servir le Seigneur. Alors que Dieu nous dit « Non, sers-moi ». Ah, bien sûr, il y a une progression. Et ça serait une erreur que de commencer à servir Dieu avant de passer par toutes les étapes dont on a parlé. Parce qu'on peut servir Dieu, on peut dépenser toute notre énergie à servir le Seigneur, et puis finalement, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas ce qu'il nous demande. Mais le fait d'être en communion avec lui, le fait de marcher dans ses voies, le fait de garder ses commandements, là, on sait qu'on est dans sa volonté. Et à partir de cet instant, si nous commençons à servir, nous savons que nous honorons son nom et que nous marchons dans sa crainte. Le choix nous est donné encore, ce soir, de rester dans une foi théorique. Et on peut rester toute sa vie dans une foi théorique. Mais la Bible nous dit la foi sans les œuvres est morte. Nous pouvons rester dans cette foi théorique, ou nous pouvons dire, Seigneur, je veux me mettre au travail. Seigneur, je veux vraiment être utile entre tes mains. Que veux-tu que je fasse, Éternel ? Seigneur, je veux passer de cet amour qui est tellement fragile, cet amour pour toi qui est tellement fragile. Je veux passer de cet amour-là à la crainte de ton nom, ce respect profond de ta personne, cet attachement véritable, le fait de devenir un avec toi, participant de ta nature divine, pour rester dans les termes bibliques. Est-ce que ce n'est pas une promesse merveilleuse que nous puissions devenir participants de la nature divine. Mais ça passe par faire ses efforts pour obéir au Seigneur, par toutes ces étapes dont nous avons parlé. Merci Seigneur, parce que je suis passé de la crainte du jugement à l'amour, mais je veux passer de l'amour à la crainte de ton nom, à ce respect véritable de ta personne. Que nous puissions, dans ces instants, laisser le Saint-Esprit graver ces choses dans nos cœurs. Je vais prier le Seigneur afin qu'il puisse faire son œuvre en nous, qu'il puisse nous montrer. Il y a peut-être quelque chose qu'il veut nous montrer cet après-midi. J'ai partagé rapidement plusieurs points, mais il y a peut-être un seul point sur lequel le Saint-Esprit nous interpelle. Et je voudrais laisser le Saint-Esprit maintenant faire son œuvre. Merci Éternel. Merci oui, parce que ta loi, elle est bonne, elle est pure, elle fait du bien à l'âme. Et nous l'expérimentons jour après jour, Seigneur. Je te prie, Seigneur, cet après-midi, pour les paroles qui ont pu être données, qu'elles puissent trouver un écho favorable dans les cœurs. Tu puisses, Seigneur, par ton esprit, oui, pointer du doigt cet aspect de notre amour qui a besoin d'aller plus loin, Seigneur. Que nous ne puissions pas rester dans cet amour sentimental pour toi, qui, quand la tempête va arriver, va se refroidir totalement. Et c'est vrai que tu nous préviens qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand homme se refroidira, mais éternel. Nous ne voulons pas faire partie de cette catégorie. Nous voulons être de ceux qui vont travailler, qui vont servir, de ceux qui vont se mettre à l'œuvre pour que notre amour pour toi puisse grandir, que notre amour pour toi puisse aller plus loin. Oui, nous voulons marcher de progrès en progrès. Nous ne voulons pas nous tromper de chemin. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Nous l'avons confessé le jour de notre baptême. Nous voulons encore te le confesser. C'est ce que nous désirons. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous indiquer quelle est la route à suivre. Nous voulons avoir ce cœur qui garde tes commandements, ce cœur qui veille sur ses voies. Seigneur, nous voulons aussi marcher dans cette communion véritable avec toi. Pas une communion de quelques heures par semaine, pas une communion de quelques minutes par jour, Seigneur, mais une communion continuelle avec toi. Seigneur, donne-nous de grandir dans ces choses et donne-nous de nous mettre à l'œuvre, Seigneur, là où tu nous veux, là où tu auras décidé, là où tu le voudras, Seigneur. Oui, nous voulons t'adorer et nous voulons te servir. Merci Éternel pour ces instants. Fais du bien à chacun de nos cœurs, Seigneur. Tu vois la personne cet après-midi qui se trouve encore dans la crainte par rapport au jugement à venir, la crainte par rapport à la colère à venir. Seigneur, donne-lui de comprendre que c'est en recevant ton amour dans son cœur, par la foi dans la croix, Seigneur, qu'elle va pouvoir passer de la crainte à l'amour. Mais nous, Seigneur, nous voulons passer de l'amour à la crainte de ton nom. Alors aide-nous sur ce chemin et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Amen.